Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joseph le 3 décembre 1986.
allez jusqu'au bout. Quand vous connaissez un principe, vous atteignez quelque chose au-delà de quoi vous ne pouvez pas aller. Alors à ce moment-là, vous saisissez la manière dont vous saisissez le contenu intelligent de ce principe et vous parlez de ratio. La ratio est au niveau proprement analogique, tandis que l'acuité est au niveau univoque, mais d'une univocité qui implique toujours une certaine analogie. Voyez, comprenez bien pour saisir ces deux niveaux d'intelligibilité. Voyez, dans la ratio, il y aura des niveaux multiples d'intelligibilité. Vous avez le niveau d'intelligibilité de la philosophie. De la philosophie éthique. De la philosophie du Fatscheré. De la philosophie politique. Vous avez déjà trois niveaux d'intelligibilité. Vous avez donc là trois ratios, trois rationes. Puis vous avez philosophie de la matière. Thank you. espèce, propriété, accident. Voilà les cinq modalités. L'espèce, ça n'existe que pour l'homme. Donc à la rigueur, dites quatre. Mais il faut quand même maintenir cinq, puisque toute la philosophie regarde l'homme. La seule véritable définition, c'est l'homme, animal raisonnable. C'est la seule définition. Vous pouvez définir un crapaud approximativement, mais pas proprement. C'est pas étonnant. Vous pouvez le définir que d'une façon approximative. Il n'y a que l'homme qu'on connaît d'une façon immédiate. L'espèce. Alors l'espèce, la définition. Je définis l'espèce. Et je la définis par le genre, par la différence spécifique. Quand la différence spécifique n'est pas saisie, je définis par la propriété. Et quand la propriété n'est pas définie, je définis par l'accident. Voyez comment un caricaturiste définit un personnage politique par le genre et l'accident. Il saisit le petit accident particulier sur le gros genre et les lie ensemble. C'est ça l'art du carquet. C'est très très joli du reste, voyez. Per modum quiditatis. C'est intelligent, c'est très intelligent, quelqu'un qui saisit exactement. Le genre, c'est toujours ex parte materia, c'est gros. C'est les sous-sols. C'est très important l'hiver, les sous-sols, puisque c'est là où il y a la machine qui chauffe. Donc c'est important, c'est les sous-sols, c'est le genre. L'accident. Il est au premier, au second, au troisième, sans aucune espèce d'importance. L'accident, ce qui caractérise l'accident, c'est ce qui est de plus accidentel. Et ce qui est de plus accidentel, c'est justement ce qui est de moins générique. Et c'est ça qu'un caricaturiste met en pleine lumière. C'est très curieux, de temps en temps. Essayez de comprendre ça, parce que les artistes disent beaucoup de la connaissance, ils saisissent. Un savant laissera tomber tout l'accidentel. C'est pour ça qu'il est si sérieux. Il regardera uniquement la propriété. Il essaiera de s'approcher de la différence spécifique. Mais il sait que la différence spécifique, il n'atteint jamais. Si on pouvait atteindre la différence spécifique, on connaîtrait les définitions. Bon, ceci, c'est le fondement de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle joue toujours sur ces cinq claviers. Tout le temps. En sachant très bien que le clavier différence spécifique, très très difficile. Je l'attaque pour l'homme. Pour l'homme, je peux l'atteindre. Je peux atteindre ce que c'est que rationnel, par moment. Vous voyez, ça s'éveille lentement dans la journée. Rationnel, les uns dès 6 heures du matin, les autres à 10 heures. Ils deviennent un animal raisonnable après le petit déjeuner, pas avant. Ça s'éveille à ce moment-là. Un animal raisonnable, c'est quand même quelque chose d'être un animal raisonnable. De porter le genre, de d'assumer tout le genre pour qu'il soit raisonnable. Que votre estomac soit raisonnable. Tout le genre, tout le gros, le genre animal. Portons ça. Alors, la propriété, on comprend très bien. Capable de rire. Le sourire du matin. C'est pour ça qu'il faut sourire le matin. À la Vierge Marie, ça nous fait entrer dans la différence spécifique. L'accident, Ça, c'est le fondement de toute ma connaissance. On le reverra en critique. Mais je vous le dis tout de suite. De là, on passe à la connaissance proprement philosophique. Vous voyez que déjà, cette connaissance qu'on dit univoque, la connaissance la plus univoque, le fondement de toute univocité, c'est le genre. Et cet au-delà de l'acuité ne peut se saisir que par l'induction. Tandis qu'au contraire, les dix prédicaments se saisissent immédiatement. Un contact immédiat, tandis que l'induction implique toujours un contact médian. Le médian est très, très particulier, mais c'est quand même un au-delà de l'acuité. Donc, un ratio exprime l'intelligibilité première. Voilà ce que je peux dire. La ratio exprime l'intelligibilité première, celle que je saisis dans un principe, dans une cause, tandis que l'acuité, c'est l'intelligibilité formelle. Se donne à travers les cinq prédicaments, à travers les prédicables, les cinq prédicables. Ouais, je ne sais pas si ça vous éclaire, mais petit à petit, vous arriverez à comprendre ces différents registres d'intelligibilité de la connaissance. Oui, connaissance critique, ça c'est la critique, ce que je vous donne là. C'est pas de la philosophie, c'est de la critique. Je réfléchis sur ma manière particulière d'ordonner mes connaissances. L'ordinateur philosophique. J'appuie quidité. J'appuie induction, saisir un principe. Et je sais que je saisis un principe. Et je sais que en saisissant le principe, je saisis une ratio. Alors voyez, ce qui est terrible quand on lit saint Thomas, c'est que saint Thomas ne crie pas gare. Comme il est très intelligent, il croit qu'on l'est. Et qu'on sait tout de suite, au niveau quantitatif, au niveau des rationnels. Alors, quand vous faites le mélange des deux, vous ne voyez plus du tout. Alors, vous arrivez petit à petit à avoir cette limpidité, la connaissance quantitative des prédicaments, la connaissance principes des raisons. Parce que au terme de toute la philosophie en critique, vous aurez la ratio ethics, la raison d'être, et vous aurez les cinq transcendentaux res, uno, aliqui. Et si je réfléchis, je les découvre. universel se divise en cinq modes. C'est très beau, ça. Et la rationis implique et donc se divise en cinq modes. Les cinq transcendentaux. Et la différence, c'est que la différence spécifique est extrinsèque au genre, alors que les modes sont intrinsèques à la ratio. La raison d'être implique res, unum, aliquid, c'est intrinsèque. C'est pas extérieur à l'être, c'est immanent à l'être. Et ça passe de l'implicite à l'explicite. Quand je passe de l'être au bien, le bien est. Il n'est pas extrinsèque à l'être. Mais j'explicite quelque chose que l'être ne dit pas. Tandis que quand je passe de animal à raisonnable, raisonnable n'est pas inclus dans animal. Grâce à Dieu. Raisonnable vient déterminer de l'extérieur l'animal. La propriété vient déterminer de l'extérieur le genre. Ça, c'est le propre de la connaissance univoque. Elle implique quelque chose de quantitatif et donc une extériorité. Tandis que la connaissance analogique est qualitative, elle n'implique pas d'extériorité. Vous voyez, petite question intéressante, ratio et quidité. Donc ça, c'est saint Thomas. Hein. Au plan philosophique, je suis obligé toujours. L'avantage du théologien, c'est qu'il puise à travers toute la philosophie, par le point de vue de la sagesse. Le philosophe doit être attentif à ces niveaux différents d'intelligibilité. Ce que saint Thomas ne fait absolument pas en théologien. Tandis que le philosophe doit être attentif à ça, puisqu'il est dans la voie d'invention. Je dois savoir que la connaissance par dédit prédicament est une connaissance propédeutique. Ce n'est pas encore la philosophie. Les dix prédicaments, tout le monde peut les comprendre. Même Kant. Tout le monde peut les comprendre. Tandis que la ratio entis et les transcendentaux, ceci présuppose les inductions. Et donc, si je n'ai pas un minimum de connaissances philosophiques, je ne comprends rien du tout. La philosophie commence quand vous saisissez les principes. Passons maintenant tout de suite à la philosophie première. Nous avons vu que la recherche de ce qu'est l'être aboutit à la substance. Si j'interroge en quoi est l'être, pas de réponse. Secondairement, qualité. Il est fort. c'est par les mathématiques que le matérialisme augmente. Hein. Faut pas l'oublier. Les mathématiques sont la noblesse de l'intelligence. Mais quand cette noblesse de l'intelligence n'accepte pas d'être dépassée par la philosophie, alors on tombe dans une certaine matérialisation. Parce que les mathématiques ont toujours un fondement quantitatif, divisible. D'où vient l'être ? Pas de réponse. L'être, il est. Alors, dernière interrogation. En vue de quoi l'être ? Ben, en vue de quoi l'être ? En vue de l'être. Puisque rien n'est extérieur à l'être. Vous n'allez pas dire en vue de quoi l'être, le non-être, le néant. Non, non. Le néant n'existe pas. Le néant n'est pas avant l'être. Le néant n'existe pas. C'est un être de raison. C'est vous qui l'avez fabriqué, le néant. Et vous l'avez fabriqué parce que vous n'êtes pas l'être premier. Alors vous vous entourez de néant. Pour donner de la sécurité. En vue de quoi l'être ? En vue de l'être. Alors cette question, est-ce qu'elle a un sens ? Oui. Quand je me pose la question, en vue de quoi ? C'est la causalité finale. La causalité finale, c'est quoi ? C'est ce qu'il y a d'ultime dans la perfection d'un être. Au-delà de quoi ? La causalité finale, à partir de quoi vous la saisissez ? À partir du fait géré. L'œuvre. Quand vous écrivez, hein, quand vous grattez, il y a une finalité. Autrement, vous ne gratteriez pas. Vous grattez pour avoir des notes. Un patrimoine. Vos notes de goût.
C'est une œuvre.
Alors les jours de fête, c'est un gâteau. Pff, oh là là. construisez quelque chose, une œuvre. C'est très important. La causalité finale se donne d'abord dans une œuvre, à partir de la matière. La matière, je l'ennoblis en la transformant en une œuvre. Le sucre, le sel, le poivre, je l'ennoblis en faisant une œuvre, en harmonisant tout ça, puisque l'œuvre implique une harmonie, une beauté. Je saisis la cause finale ensuite dans le choix amical. Tu es mon ami. Quand vous dites tu es mon ami, je te choisis, vous saisissez la cause finale. Voyez la différence. C'est que d'un côté, c'est l'œuvre, et de l'autre côté, c'est l'ami. Et l'ami, je le respecte tel qu'il est. Je ne le fais pas. Je considère que l'ami, c'est vraiment ce qui donne un sens à mes opérations vitales, à mes opérations volontaires. Mon bonheur. Tu es mon bonheur. C'est la causalité finale qu'on saisit. Oui, je crois qu'il faut toujours avoir devant les yeux ces deux aspects de la causalité finale. Une immanente et l'autre extrinsèque. L'une que je découvre et l'autre que je fais. Et la causalité finale est donc au-dessus de ces deux aspects-là. Puisqu'elle se donne à moi tout de suite selon ces deux modalités. Ensuite, causalité finale du bien commun. Ah, ça implique les deux, bien commun. Quelque chose que je fais. C'est quelque chose que je fais. Si je n'ai rien fait, je ne sais pas ce que c'est que le bien commun. C'est pour ça que quelquefois c'est si subtil. Hein. Quand vous critiquez le bien commun, c'est parce que vous n'avez rien. Alors vous regardez le bien commun de l'extérieur. Une fois que vous avez mis la main à la pâte, vous n'avez plus du tout envie de critiquer. Parce que c'est vous qui l'avez fait. Donc c'est nécessairement bien. Le bien commun vient de moi et il vient d'un autre. Et nous avons fait ça ensemble. Ensuite, vous essayez de saisir la finalité au niveau spéculatif. La connaissance spéculative de la fin. Oh, très difficile. Vous avez une connaissance pratique de la fin. Oui, ça va très bien. Peut-on avoir une connaissance spéculative de la fin? C'est là où Don Scott s'est heurté. Parce que si vous cherchez quelle est la finalité de la nature, qu'est-ce que vous dites? Je saisis la finalité de la nature par la causalité efficiente. C'est la causalité efficiente qui me permet de saisir la causalité finale. Je saisis que la nature est un principe efficient du mouvement. Et ensuite, je saisis que dans ce mouvement, il y a une détermination. Et que ce mouvement implique une finalité, parce qu'il est déterminé. Je saisis donc la fin par l'intermédiaire de l'efficience et de la cause formelle. matérialise toute la métaphysique. Je la ramène à la logique. Et vous regardez, est-ce qu'il y a une métaphysique de l'acte où il y a une distinction réelle entre essence et existence? Voilà, tout se ramène à ça. Et vous ne voyez plus de métaphysique de l'acte. Ou vous voyez quelqu'un comme le père de finance. Regardez la métaphysique du père de finance. Le père de finance parle du surréel.